Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Nicolas Olivier est né à Bordeaux. Lorsqu'il avait 6 ans, il hésitait entre devenir footballeur ou musicien professionnel. Et puis la seule chose dont il avait la certitude, c'était qu'il ne voulait pas devenir professeur d'éducation musicale au collège. Et aujourd'hui, contre toute attente, il est professeur d'éducation musicale et parallèlement formateur numérique à Toulouse. C'est un jour de rentrée, en se retrouvant devant ses élèves, qu'il a pris conscience qu'il avait fait le bon choix. Nicolas est un passionné et sa passion, il la partage dans son blog edmustech.fr et sur ses chaînes YouTube. Tout le monde peut faire de la musique, et la chaîne Nicolas Olivier. Il se met en scène avec beaucoup d'énergie et toujours un petit grain de folie qui nous donne envie d'y revenir. Les thèmes et les sujets qu'il aborde sont très variés et ont souvent un rapport avec la musique, mais pas que. Son ambition, c'est entre autres de nous convaincre que nous aussi, nous sommes des musiciens sans le savoir. Nicolas Olivier, bonjour.
Bonjour. Ou plutôt, il faut que je dise « Bonjour !» Pardon.
Si vous deviez m'offrir un album de musique incontournable, l'album qu'il est vraiment indispensable de posséder, ce serait quoi?
Alors, je dirais un album de jazz qui s'appelle « Kind of Blue » de Miles Davis en 1959, qui est sous le nom de Miles, en fait, tout simplement, avec un effectif absolument extraordinaire, et voilà, qui représente une période très particulière de l'histoire du jazz, puisque c'est un mouvement très très court, finalement, dans l'histoire du jazz, mais voilà, qui est à la fois très profond, très calme et reposant, très sensible, beaucoup d'improvisation, beaucoup d'arrangements. Voilà, c'est souvent un exemple que je prends pour parler de jazz, que ce soit dans mes cours ou que ce soit ailleurs, parce que on a vraiment une sorte de synthèse de tout ce qui s'est fait un peu avant et en même temps une musique qui peut être écoutée en fond ou qui peut être écoutée savamment et que l'on a tous en tant que musicien de jazz étudié de façon approfondie pour repiquer tous les riffs, tous les bouts d'improvisation qui s'y trouvaient.
Merci beaucoup, j'ai de quoi me mettre autour des oreilles ce soir au coin du feu, c'est super, merci.
Prof, etc.
Quel regard portez-vous sur votre enfance, Nicolas?
Alors oui, j'attendais cette question, parce que je ne sais pas y répondre. En fait, je pense que j'ai fait une sorte de déni conscient ou inconscient et j'ai tendance à oublier en fait, et donc parfois j'ai des fulgurances où je me rappelle d'événements quand on peut en évoquer en famille ou quand on évoque des situations auxquelles moi-même je peux me rattacher, mais c'est vrai que j'ai quand même globalement tendance à déjà garder que le meilleur et surtout à regarder ce qui vient et en fait à regarder plutôt devant que regarder plutôt en arrière, mais donc dans mon souvenir globalement c'est plutôt positif. Je sais que moi j'ai aimé beaucoup et très longtemps, très tard je vais dire dans ma vie, jouer, m'amuser, rigoler, et tout ce qui était difficile je l'occultais jusqu'à ce que je sois en fait dans les études et là où je prenne du goût au travail, aussi bien dans l'étude que dans le travail en lui-même, et je me suis découvert en fait une autre personnalité où j'avais vraiment envie d'être très professionnel en fait dans tout ce que je faisais et très perfectionniste, mais quelque chose donc que je ne connaissais pas avant. Donc en fait, il y a eu un schisme quoi entre l'avant où je voulais profiter de la vie et le moment où ça a basculé et où là, c'est un nouveau Nicolas qui est sorti.
Alors ça tombe bien, vous disiez que c'était surtout le positif que vous reteniez. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir en tant qu'élève?
Alors pareil, la question piège. J'ai essayé d'y réfléchir, hein, mais honnêtement, les seuls qui me viennent en fait ne sont pas des souvenirs d'écoliers ou de collégiens, mais des souvenirs d'étudiants à la fac en fait. Mmh. C'est à partir de ce moment-là où j'ai fait de la musique et où j'ai compris que en fait ce que j'avais envie de faire depuis le début c'était ça et que l'école en soi ne m'intéressait pas, mais dès lors qu'on a commencé à étudier la musique et notamment je me rappelle d'un cours du début d'année à la fac sur le Moyen Âge où je me disais oh là là ça va être très inintéressant et en fait bah, je me suis passionné immédiatement. Alors j'ai jamais eu de bonnes notes dans ce cours, mais c'était passionnant. Et là, effectivement, toutes mes études à la fac et dans mon école de musique professionnelle que j'ai faite avant la fac, ça n'a été que du bonheur. Donc en fait, mes souvenirs, les meilleurs de l'école sont finalement les études supérieures.
Alors je le disais dans votre portrait, vous laissez s'exprimer votre passion au travers de votre blog et de vos chaînes YouTube. YouTube, comme on dit, quand je dis ça à mes élèves, ils rigolent. Comment cette envie d'aller à la rencontre des internautes est-elle née? Est-ce que c'est un moyen d'enseigner hors des murs? Est-ce que c'est un moyen de sortir des sentiers battus?
Alors, c'est une bonne question parce que mon itinéraire pour en arriver là où je suis est d'abord parti de la classe, puisque il y a eu un grand courant il y a quelques années qui s'appelle la classe inversée et dans lequel je me suis expérimenté, on va dire, pour me rendre compte assez vite que finalement ça marchait pas exactement comme on le voyait sur internet dans mes classes, puisque sûrement que ma matière faisait que l'éducation musicale était peut-être moins considérée que le français ou les maths. Néanmoins, c'est ce qui m'a permis de mettre le doigt sur la création de vidéos et plus précisément de capsules vidéo. Et bah très vite, effectivement, les traits de ma personnalité que vous avez très bien évoqués se sont révélés et je n'ai pas résisté très longtemps à y mettre un peu de moi, un peu d'humour, un peu de folie. Et puis, bah, de fil en aiguille, je découvrais aussi les youtubeurs qui étaient, ou que sont toujours d'ailleurs, hein, Cyprien, Norman, Squeezie. Et puis, je me suis dit un jour, mais pourquoi j'assumerais pas et pourquoi je le ferais pas vraiment? Et donc, je crois que c'est fin 2016, quelque chose comme ça, que vraiment je m'y suis mis. Et quand j'ai vu en fait l'accueil favorable que mes élèves ont montré, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à explorer. Puis en plus, moi, j'y ai pris goût instantanément, c'est-à-dire qu'il y avait tout l'emballage de la création sur YouTube, c'est-à-dire l'écriture d'un script, la réflexion pédagogique, d'être scientifiquement irréprochable, travailler avec d'autres pour justement que ce script-là soit validé par les autres et que ce que je publie soit bien, et puis bah, toute la partie de tournage, montage, création musicale, etc. Et en fait j'y ai trouvé une synthèse en fait de tout ce que j'aime finalement, c'est-à-dire m'amuser, faire l'idiot, faire de la musique, enseigner, et puis tout l'aspect geek, en fait, matériel, il faut utiliser du matériel musical, du matériel numérique. Et donc, en fait, c'était un mélange entre un besoin qui émergeait de ma classe, parce que, transmettre un savoir en tant que prof, on a tendance peut-être à trop parler, à trop dire de choses, donc là, au travers des capsules vidéo, je pouvais donner je donnais un discours qui était très concis, très clair, très organisé. En même temps, pour les élèves absents, ça permettait d'avoir cette redite, et puis cet outil de remédiation également. Et puis en même temps, bah, y avait le versant finalement personnel où je m'éclatais à faire ça. Et puis, bien sûr, dernier point, ça a créé toute une synergie aussi, puisque moi je me suis mis en réseau donc avec des collègues, soit vidéastes, soit déjà youtubeurs, soit enseignants, et tout ce petit monde, j'oscille entre toutes ces sphères-là pour justement progresser et évoluer.
Ben justement, je crois que vous étiez assez lié avec la chaîne Explique-moi encore, non?
Exactement, voilà François Lamoureux, ouais. Qui a démarré un peu en même temps que moi, sérieusement sur YouTube, on va dire. Il avait déjà fait des capsules, mais au moment où où il a démarré vraiment, on était effectivement ensemble dans le projet et on travaille encore aujourd'hui ensemble.
Alors lui, il a poussé très loin puisqu'il s'est reconverti complètement. Si vous le contactez, si vous parlez avec lui, essayez de le convaincre parce que je lui ai proposé de faire un épisode, mais il est un peu inquiet de revenir en arrière sur son passé de prof.
J'y manquerai pas.
Alors souvent, les musiciens personnifient leur instrument en lui parlant, en lui donnant un nom. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, votre guitare ?
Alors moi, j'ai pas donné de nom. Je l'ai pas personnifié. Je pense que c'est parce que depuis tout petit, mon père déjà m'avait mis une guitare dans le parc. Et donc, c'est vraiment un outil ou un objet qui a toujours fait partie de mon quotidien depuis toujours. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est aussi, je pense, une part de mon identité, la musique et la guitare en particulier, puisque je la pratique depuis toujours, depuis le CP, j'ai pris des cours, du solfège, etc. Donc voilà, pour moi, ça représente quelque chose d'important, au sens où j'ai besoin régulièrement d'avoir une guitare entre les mains. Bon, ça tombe bien puisque dans mon métier je l'ai tous les jours entre les mains. Mais je sais que parfois si on part en vacances et qu'on n'a pas d'instrument, au bout de 2-3 jours j'ai plein de musique dans la tête et je ressens le besoin d'en faire. Donc ouais, c'est quelque chose qui est vraiment inné en moi et qui fait partie totalement de moi. Au-delà juste de la guitare, c'est de la musique en général.
Prof, etc.
Alors, on comprend bien en regardant vos vidéos que vous construisez de nombreuses passerelles entre la musique et la technologie numérique notamment. Qu'est-ce que cette technologie apporte à l'enseignement de la musique en particulier ?
Alors, une vaste question. Il faut peut-être revenir au fait que quand je suis arrivé dans ma classe, donc il y a 10 ans maintenant, j'ai instantanément utilisé mon smartphone qui était dans ma poche pour prendre en photo le tableau, enregistrer les élèves, les filmer. Et à cette époque, je représentais une exception et les élèves eux-mêmes me disaient mais personne fait ça, monsieur, parce qu'ils étaient surpris dès que j'utilisais cet outil-là. Et donc, dès cette première année d'enseignement, j'ai mis en place des projets dans lesquels on sollicitait la technologie numérique, mais dans un objet. Parce qu'à cette époque, j'étais pas du tout sur les réseaux et pas du tout sensibilisé à l'usage du numérique dans l'enseignement. Donc c'était purement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on utilisait l'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo. Il n'y avait pas encore GarageBand qui est arrivé un tout petit peu après. Il n'y avait pas encore d'iPad. Enfin, il est arrivé l'année où j'ai commencé l'enseignement, moi, l'iPad. Et donc effectivement, au départ, c'était vraiment un outil qui faisait partie de moi parce que j'ai toujours été un peu geek déjà. Et qui était le prolongement finalement de ce que je trouvais logique à faire dans l'établissement, sans me poser de questions et sans me dire je vais intégrer cet outil à ma pratique. Mais très vite, je me suis rendu compte du potentiel que ça pouvait avoir, puisque rien que enregistrer les élèves et les faire se réécouter, ça leur permettait immédiatement de se rendre compte qu'ils chantaient faux. Ou juste. Mais du coup, le potentiel pédagogique sur un si simple usage était extrêmement pertinent, au même titre d'ailleurs que la diffusion audio d'extraits musicaux sans avoir à employer un ordinateur de salle de classe dont on sait qu'ils ne sont que très rarement fonctionnels, on va dire ça comme ça. Sans parler des connexions internet, etc. Et puis après, de fil en aiguille, l'iPad est arrivé en classe, et puis d'autres tablettes également, et là, le potentiel c'est vraiment décuplé, puisque notamment en éducation musicale avec l'application GarageBand, on a sous nos doigts, pour des élèves de tout âge, parce que je l'utilise aussi quand je fais des interventions pour le premier degré, la possibilité de réellement créer des sons, mais créer de la musique, et c'est vraiment le postulat finalement de mes chaînes YouTube et de mon enseignement, ce sans avoir donc de compétences musicales, et ou en créant très rapidement avec une chaîne comme tout le monde peut faire de la musique.
Ouais. Justement, vous parlez de GarageBand. Est-ce que cet outil est à la portée de tout le monde ? Et est-ce que vous pouvez nous mettre l'eau à la bouche, si oui ?
Oui, moi je reste fondamentalement convaincu que oui, parce que dès la sixième et dès les premières séances, je fais créer à mes élèves de la musique et ils se prennent pour David Guetta, et ce en quelques minutes à partir du moment où je leur ai donné des codes. Alors c'est certain que on pourrait faire sonner de la musique dans GarageBand sans avoir aucune compétence, mais dès qu'on donne quelques petits ingrédients, un petit peu comme une recette de cuisine en fait, eh bien tout de suite on peut faire une musique qui est intelligible, qui est construite et qui est accessible à tous. Et je peux vraiment confirmer que c'est accessible à tous parce que de petits, donc même en élémentaire jusqu'à très grand sur les formations d'enseignants que je fais, je donne ces outils à vraiment une variété de gens très différents et tous sont capables ensuite de s'en saisir pour créer de la musique. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment l'outil qui peut être sollicité de tout petit à très très grand pour faire de la musique.
Quels conseils donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et qui souhaiteraient accompagner leur enfant dans l'apprentissage d'un instrument de musique ?
Eh bien, la clé pour moi est dans la répétition régulière. Hein. C'est pas une nouveauté, c'est pas innovant du tout, mais voilà, je connais de façon très proche encore des adultes ou des enfants qui se mettent à la guitare, par exemple, et à chaque fois, je leur donne ce même conseil, et à chaque fois, ils se vérifient. La répétition d'exercices ciblés et surtout la pratique régulière, c'est-à-dire même 5 minutes tous les jours, ou même 3 minutes tous les jours, mais à répéter un petit fragment, un petit bout du morceau qui pose problème, c'est vraiment la clé pour que finalement le cerveau et le corps développe tout simplement les gestes nécessaires à la mise en place de ce morceau ou de cette petite difficulté technique. Et c'est encore aujourd'hui ce que je fais moi-même. C'est-à-dire que quand je dois apprendre quelque chose, je l'écoute beaucoup et je le répète beaucoup, même quelques instants, mais même peut-être plusieurs fois par jour, eh bien, je développe ces compétences. Donc c'est vraiment le conseil que je garde encore aujourd'hui. Après, il y aurait bien sûr plein de choses à dire, mais pour faire simple et accessible, répéter des petits bouts régulièrement, c'est vraiment la clé de l'apprentissage.
Prof, etc.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ?
Alors, très certainement pour une boulette de ma part, puisque on parle sur Twitter des boulettes de Nico, hein, par exemple. On a un fil WhatsApp qui s'appelle Nico Boulette, par exemple. excusez-moi pour le chien derrière, non, qu'on va bien. Faire... bientôt, mais c'est c'est le direct du...
Ouais, c'est les joies du direct.
C'est ça. Donc, les Nico Boulettes, ce sont très régulièrement des bêtises que je fais sans le vouloir. Je suis un peu ou beaucoup TDAH, hein, donc trouble de l'attention et hyperactivité, et donc j'ai tendance à, par exemple, rater des avions, rater des trains, m'endormir dans le métro et rater du coup les arrêts, ou bien alors être concentré sur quelque chose et effectivement me rendre compte quand j'arrive au terminus du métro qu'en fait j'ai même pas pris la ligne dans le bon sens, ce genre de choses-là. Et donc je me rappelle pas précisément la dernière boulette, mais en général c'est ce genre de choses qui arrive. Ouais. Ça vient des Nico Boulettes.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ?
Actuellement, je pense que c'est le matin quand j'arrive à me lever tôt, parce que c'est le moment où en fait je peux abattre le plus de choses et à la fois être dans le calme. C'est-à-dire que le matin quand je me réveille, je suis assez créatif, j'ai beaucoup d'idées et je suis aussi très productif. C'est d'ailleurs comme ça que je pense réussi en partie l'agrégation, c'est que je me suis discipliné pour me lever très tôt le matin pendant une grosse année. Et donc quand j'arrive à me lever tôt et que ensuite je démarre la journée, je suis hyper satisfait d'avoir accompli déjà tout ce que j'ai accompli sans avoir forcément vécu la pression du stress de la journée. Et donc, de 5 à 8 heures, par exemple, si j'arrive à pouvoir faire un peu de sport, travailler, avancer sur des projets qui me tiennent à cœur, et aussi prendre le temps de boire un café en regardant un peu une vidéo YouTube ou un truc comme ça. C'est vraiment un moment effectivement très plaisant et surtout, j'ai envie de dire, reposant finalement, contrairement au reste de la journée qui va un peu à 200 à l'heure quand même.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ?
Alors ça dépend dans quelle partie de la vie, en termes personnels, professionnels.
Choisissez-en un.
Alors je vais choisir le professionnel pour pas trop mouiller personnellement, mais au niveau professionnel, je dirais que c'est la bienveillance aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment qui marque. Ma façon d'enseigner, je crois, et d'essayer de donner une image de l'adulte qui soit positive, qui soit respectueuse, qui soit à l'écoute, qui soit aussi humble, en fait, capable de se remettre en question et de reconnaître ses erreurs. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de... Enfin, c'est pas que j'essaye, je le fais, je dis vraiment ça à mes élèves, je dis si, à un moment donné, il y a une sanction qui arrive ou une note qui est mauvaise ou autre, je suis pas infaillible et je suis prêt à reconnaître mes erreurs, mais simplement, voilà, dites-le-moi respectueusement, que l'on puisse échanger, et je suis prêt à reconnaître mes erreurs. Et souvent, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas de suite, mais dans l'année, lorsqu'on a affaire à des conflits ou à des erreurs de ma part et qu'ils se rendent compte que ce que je dis n'est pas en l'air, je vois que ça les touche et que eux-mêmes vont aller dans ce sens-là. Mmh. Et c'est voilà, pour moi c'est, et puis bon, bien sûr après ça va aussi dans le sens du travail avec les collègues, etc. Mais en tout cas dans ma mission au quotidien, c'est vraiment mon cheval de bataille de toujours veiller à garder cette bienveillance envers les élèves. Mmh. Voilà, et ça irrigue vraiment toute ma pratique et tout ce que je cherche à être en tant qu'enseignant.
Prof, etc.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ?
Eh bien, alors j'en ai pris conscience récemment, grâce notamment à la réussite de l'agrégation, c'est de me rendre compte que je suis capable de tout faire ou presque avec de la persévérance et avec on va dire de la rigueur ou tout du moins des efforts, quoi, en fait. Mmh. Voilà, et aussi bien au niveau personnel que professionnel, je me rends compte que je peux vraiment arriver à tout si je m'en donne les moyens, que j'en prends la décision et que je m'y tiens et que je persévère, ce qui n'est pas facile quand même à faire, mais ce qui est chouette, c'est que je me rends compte que c'est possible, et ce dans tous les domaines de ma vie. Mmh. Donc je suis fier, je sais pas si je suis fier, mais en tout cas ça me donne beaucoup de confiance pour l'avenir et au quotidien aussi.
Pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ?
C'est une bonne question, ça. Il va me falloir quelques secondes pour, pour essayer de me concentrer.
On a tout notre temps.
Je pense que je me mettrais dans la peau de quelqu'un que j'admire. Et que j'aimerais mieux comprendre. Donc, je pense que, paradoxalement, ça pourrait être, par exemple, mon épouse. Parce que, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, pour qui elle est. J'aimerais des fois comprendre. Parce que, bon, chaque être humain est particulier, on est tous différents. Et c'est vrai que parfois, on aimerait comprendre l'autre un peu mieux. Et peut-être qu'en vivant une journée à sa place, on comprendrait mieux certaines choses.
Comment définissez-vous le succès ?
Encore une très bonne question. Moi, je dirais que c'est très personnel parce que pour moi, c'est arrivé justement à atteindre ses buts. Sauf que ce que je me rends compte maintenant, c'est que, par exemple, voilà, je reparle de l'agrégation beaucoup, c'était un but que je m'étais fixé. Là, je l'ai presque réussi parce que j'ai eu l'écrit, il manque encore l'oral. Et je pensais qu'après, ça, comment dire, j'aurais plus forcément de but à atteindre. Je me disais, bon, avec tout ce que j'ai fait, toute l'expérience que j'ai eue dans tous les domaines de ma vie, je pense que j'aurais atteint une sorte de plénitude. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non, et qu'il y en a toujours. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais que c'est très personnel, parce qu'en fait, je voyais le succès comme un achèvement. Et en fait, je me rends compte, mais ça rejoint finalement beaucoup de gens qui disent ça, c'est qu'on en veut toujours plus, en fait. Donc je le vois comme une sorte d'accomplissement, mais hélas, qui ne se termine jamais. Donc c'est très frustrant.
On arrive bientôt à la fin de cette conversation. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années ?
Eh bien, justement, de réussir dans les différents domaines dans lesquels je suis actuellement. Donc, c'est effectivement mener ce projet d'agrégation à son terme. Et puis après, il y a un autre achèvement, un autre succès qui est au bord. Je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais je pense que d'ici là, je l'aurai atteint. C'était le palier, justement, des 10 000 abonnés sur YouTube. Alors là, il me manque qu'une centaine d'abonnés au moment où on se parle. Mais du coup, ça aussi, c'est un accomplissement et je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les 2 ans à venir. Est-ce que je vais continuer là-dedans ? Est-ce que je vais avoir un autre objectif ou pas ? En tous les cas, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, il y aura une transition, en tant qu'homme personnel, où je ne serai pas justement à la recherche de chiffres comme celui-ci, mais que je vise pour ces 2 ans à venir une évolution à titre personnel, familial, qui soit, voilà, parce que ce soit vraiment mon objectif et que ça puisse prendre vie.
On va lancer un appel, hein. Abonnez-vous à la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, et bien sûr cliquez sur la petite cloche, etc. Vous connaissez ça par cœur. Moi, Nicolas, je vais vous remercier d'avoir accepté mon invitation.
Et merci à vous, je suis très touché, et puis il a fallu persévérer pour qu'on trouve un credo.
On y arrive toujours.
On a réussi.
Ouais. En tout cas, je mettrai tous les liens pour vous rejoindre et vous suivre en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple.
C'est fait.
N'hésitez pas non plus à m'offrir 5 étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager vous aussi votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi!